France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle James Conlon. Je suis né à New York en 1950 et je suis chef d'orchestre.
Vous avez un répertoire extrêmement vaste, James Conlon. Là-dedans, il y a quand même tout un champ extrêmement important qui est celui de Zemlinsky, de ses voix autrefois étouffées et aujourd'hui retrouvées. Comment est-ce que vous êtes tombé dans cette musique? On a l'impression que un jour vous êtes tombé dans Verdi, un jour vous êtes tombé de la même manière dans l'univers de Zemlinsky.
Quelque part, vous avez raison. Oh, c'était toujours avec moi une chose naturelle. J'étais attiré par une musique et alors j'ai suivi. Dans le cas de toute la musique des compositeurs qui étaient supprimés par le nazisme, ça est devenu une mission et ça date déjà de 30 ans. C'était pas une chose que j'ai conçue, je disais je vais faire un projet. C'est arrivé organiquement de la première rencontre avec Zemlinsky. La grande occasion que j'avais à Cologne d'enregistrer avec EMI toutes les œuvres orchestrales et les trois opéras, qui m'a donné une largesse. Tu connais bien lui, mais ça n'a pas arrêté là. Dès que tu commences à lire sur la vie de Zemlinsky, tu entends d'autres noms, Franz Schaeker. Après, tu découvres Térésine, qu'est-ce que c'était Térésine et pourquoi Victor Ullmann et comment et pourquoi vous trouvez Erwin Schulhoff. Autre moment, au début, j'ai fait parce que j'aimais la musique et aussi j'ai croyé que c'était une injustice que devait être rectifiée. Mais le moment est arrivé où j'ai réalisé que toute la musique que nous connaissons pas, c'est pas parce que la musique et essentiellement pas digne. C'est parce qu'il y avait un génocide et il y avait une suppression politique. Et ça, c'est une tragédie pour eux, mais aussi pour nous. Parce qu'une partie de notre patrimoine, nous avons jamais vu, nous avons jamais eu. Mais moi, je n'ai jamais entendu cette musique jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, j'ai commencé de m'intéresser et comme j'étais en Allemagne, grâce à Dieu, encore une fois, parce que l'Allemagne est le seul pays qui prend pour sérieux cette question, bien entendu, parce que nos générations, ils comprennent l'importance à rectifier le passé. quand je suis parti de Paris et je suis re-entré à la vie américaine des orchestres, etc., j'ai porté beaucoup de cette musique que j'ai appris pendant des années ici. Et globalement, la réaction était toujours d'appréciation. Et la deuxième question, comment est-ce que je peux savoir plus? Et j'ai dit, malheureusement, tu peux pas, parce qu'il n'y avait pas de livres. Les livres, s'ils existaient, étaient en allemand. J'ai entendu qu'il faut faire quelque chose. Donc, j'ai créé une website, orelfoundation.org. Trois raisons pour moi pour le faire. D'abord, pour rectifier une injustice. Et ça vient de ma famille, mes parents. Nous étions formés comme ça. Si vous voyez une injustice et vous pouvez faire quelque chose, vous devez faire quelque chose. La seconde, c'est ce que l'histoire de la musique du XXe siècle, qui est maintenant le passé, est incomplet. Ce n'est pas intégral. Il y a des énormes trous. Et le tout concerne ces compositeurs qui sont les victimes de l'histoire. Et il faut au moins remplir les livres historiques de la musique avec leur nom, leur histoire, pourquoi, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que cette musique est représentée. Bien sûr, ils n'ont pas progénie parce que. Et donc, c'est très important pour l'histoire d'être revue. Mais la troisième raison est la plus importante. La troisième, c'est artistique, parce qu'il y a des volumes de grande musique. La musique est là, existe. Pour la plupart, c'est imprimé. Quelquefois, c'est pas difficile, mais ça existe. Mais il faut faire, il faut jouer. J'ai un projet pour public education au Colburn Conservatory. L'idée est de promouvoir les performances, parce que c'est, on joue pas, c'est comme il n'existait pas. Et ça, c'est bien sûr une chose que donne au nazisme une victoire posthume, et que je n'accepte pas cette victoire. Ça devrait pas être possible que nous acceptons ça.
James Conlon, vous avez une autre part dans votre vie d'interprète qui est peut-être plus proche du glamour que vous nous définissez un peu de Los Angeles. Vous qui, je crois, avez une grande admiration pour Ingmar Bergman, vous avez aussi un lien fort avec le cinéma. Trois films d'opéra au cinéma, un de Comencini, un autre de Frédéric Mitterrand et un troisième de Kenneth Branagh. Deux opéras de Puccini et puis La Flûte Enchantée. Votre expérience d'opéra filmé, est-ce que elle prend sa source aussi dans cette volonté de faire que le plus grand nombre peut peut-être rencontrer cet art encore souvent trop élitiste?
Je suis complètement contre l'idée que c'est une art élitiste. Je suis contre ça à 100%. Pas seulement une question de la perception de l'art, mais du fait. La musique classique est pour tout le monde. Ça, c'est ma mission principale. J'espérais dans les films que ça pouvait être un pas vers cette réalité. Si ça a vraiment fait une différence, je suis pas sûr. Mais maintenant, avec la télévision, le live qui viennent des opéras, au moins, il y a des progrès technologiques qui permettent maintenant live streaming, toutes sortes de choses, que je crois remplissent la même fonction. J'aime le cinéma. Quand j'étais plus jeune, j'étais chef invité, j'ai voyagé pour des mois entiers. J'ai connu personne. J'ai fait les répétitions, tu vas à l'hôtel, tu manges. Alors moi, si je pouvais, je suis allé au cinéma. Dans les années 70, j'ai vu beaucoup. Si je devais pas travailler, probablement, qu'est-ce que je ferais? Il y a tellement de choses que je ferais que je ne sais pas où commencer. D'abord, la chose qui me manque le plus, c'est le temps de lire. Et ça, c'est une chose qui m'horrifie quelquefois. Parce que j'ai accumulé des livres pendant toute ma vie, parce que j'adore lire, je suis tellement curieux, et j'accumule. Et maintenant, je sais, je n'aurai jamais les années qui me restent de lire tout ce que j'ai accumulé. Donc, pour le jour, si j'arrête ou j'arrête de diriger, certainement je voudrais lire beaucoup. Chaque jour, c'est un jour d'apprentissage, encore à mon âge. Deux choses que je n'ai pas perdues. La passion de la route à Dama, la passion, j'ai jamais perdu la passion pour la musique. Ça a resté à moi et ça me laisse pas en paix. Comme je dis, j'écoute la musique, je vois la musique, je mange la musique, je bois la musique. La musique, et les rêves, dans les rêves. Et je n'ai pas perdu le besoin d'apprendre et l'impression que je ne sais pas assez. Je sens exactement aujourd'hui comme un adolescent impatient de savoir tout.
France Musique, les grands entretiens de James Conlon.
Des compositeurs qu'on n'a pas évoqués, il y en a énormément, mais il y en a peut-être deux. D'un côté, il y a Mahler, et de l'autre côté, il y a Britten.
Ah, merci. Deux points centrales. Mahler, encore une fois, a commencé pendant l'adolescence. Et le moment clé que je me rappelle, j'ai vu le chant de la terre, dirigé par Bernstein, j'étais dans le troisième rang, je suis rangé juste sous lui, Fischer Disco, inoubliable. Je crois que c'était Jess Thomas qui a chanté. Ça a déclenché là, avec Bernstein, et c'était les années de Bernstein. Et donc, ça a grandi, et j'ai commencé tout de suite. Mon premier orchestre, c'était un des orchestres de Juilliard. Quand j'ai fini mes études, ils m'ont donné, tout de suite après la Bohème, ils m'ont donné un des orchestres. J'avais une grande chance, encore une fois, que l'occasion était là. Et j'ai commencé à construire un répertoire symphonique. Et dès la première année, j'ai commencé avec la première symphonie, et la cinquième symphonie, et après j'ai fait la sixième symphonie. J'ai fait trois cycles complets, un à Rotterdam, un à Cologne et un à Chicago Symphony. J'ai compté récemment ces 360 ou quelque chose de spectacles de, c'est-à-dire concerts de Mahler. Essentiel pour notre temps, la fameuse observation, le temps de Mahler va venir, c'est venu et ça reste.
Thank you.
Benjamin Britten est beaucoup plus intéressant dans le sens que beaucoup de gens sont fermés à Britten. Et ça peut être partiellement parce que dans son genre, il était une personnalité fermée. C'est un goût acquis. Encore une fois, ça a commencé avec 16 ans, 17 ans. La nouvelle production de Peter Grimes au Met, j'étais présent à la première. Colin Davis, c'était le début de Colin Davis.
John Vickers.
Et John Vickers, c'était la première fois qu'il l'a fait. Inoubliable, et ça m'a marqué, comme ça. Un an après, deux ans après, Benjamin Britten et Peter Baird sont venus à New York. Ils ont donné deux récitals de leader, Winterreiser intégral, bien sûr, et l'autre était Dichte Lieber, Schumann, avec une seconde partie des chansons de Britten. Inoubliable. Les deux. J'ai compris pourquoi Peter Pierce était un grand artiste, parce qu'il avait aussi un charisme extraordinaire. Mais c'est ce que je n'ai pas attendu, c'était le pianisme de Benjamin Britten, qui est indescriptible, d'une qualité, d'une beauté, d'une flexibilité incroyable. Et tant dit ça, il a dit « Ah, je déteste le piano, c'est un instrument à percussion ». Il a dit ça. Britten, pour moi, c'est un des grands génies. Méprisé par certaines écoles pendant le XXe siècle. Il y a un peu peut-être le problème Angleterre-Europe. Il n'y avait pas ce problème aux États-Unis, mais quand même, il n'était pas populaire. Il n'était jamais populaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas populaire. Mais pour moi, c'est un grand génie. C'est la génie de la musique anglaise du XXe siècle et dans tous les domaines. L'opéra, la musique sacrée, l'orchestre, la maîtrise de musique instrumentale, les chansons, tout. Il pouvait faire tout. Il avait son optique, il avait une génie. Et je compare avec son partenaire, qui n'est pas vraiment son partenaire, mais il est son partenaire, qui est Shostakovich. Au contraire, à tous les autres compositeurs dont nous avons discuté, Shostakovich m'a fait aucune impression dans ma jeunesse. Zéro. Je ne sais pas pourquoi. C'était Lady Macbeth qui m'a fait comprendre qu'est-ce que c'était Shostakovich. Et dès que la porte était ouverte, j'ai re-attaqué les symphonies et après, c'était une après l'autre. Et maintenant, je dois dire, je n'aime pas voir beaucoup de temps passer sans que je fasse quelques symphonies de Shostakovich. J'ai fait la cinquième encore une fois, c'est la symphonie qu'on fait la plus parce que c'est populaire. Mais chez nombreuses fois, 13, 14, 15, 12, personne ne le fait. C'est une œuvre qui mérite. Je vois les deux confrères. Leur amitié, c'est une des plus belles histoires de la guerre froide. Ils ont tous les deux vécu des vies difficiles pour des différentes raisons où ils ne pouvaient pas exprimer verbalement à voix haute et à voix ouverte ce qu'ils ont pensé. Ils ont tous les deux trouvé une espèce de code. Shostakovich pour des raisons politiques, Britten pour des raisons sociales. Pour moi, le War Requiem, un des chefs-d'œuvre du siècle. Moi, j'ai fait pas toutes les opéras, mais quasi. Je suis presque arrivé et je vais, je crois, bientôt, je vois Mort à Venise. Donc, c'était manqué, mais je suis très content si ça va arriver.
Thank you.
dans les souvenirs, vous évoquez la Russie, James Levine. Je crois qu'on revient un petit peu en arrière, mais en 86, vous allez faire une tournée en URSS avec Rotterdam.
Nous avons donné 3 concerts à Leningrad, 2 à Moscou, et après nous sommes allés à Helsinki. Inoubliable. Ça, l'impact de voir la Russie, de sentir cette ville incroyable, la profondeur de culture est une chose unique. Si vous devez me demander quel est le public qui vous avait ému le plus dans ta vie, je dirais sans hésitation Moscou à ce moment-là. Parce que c'était partiellement le mélange ensemble de l'Est et l'Ouest, je ne sais pas. Mais la qualité d'écoute, la concentration du public était claire. Ils écoutent la musique avec une profondeur particulière. Silencieux, très vocal à la fin. Là, je pense que nous avons donné tous les bis que nous avons eus, 7, tout. Et ils auraient réclamé encore plus. Heureusement, j'avais l'occasion de retourner plus souvent à Mariinsky, et l'orchestre est excellent. Et la vie en Saint-Pétersbourg est extraordinaire maintenant. Moscou aussi, j'ai fait beaucoup des années là-bas. Pour moi, c'est la même espèce de pèlerinage que j'ai fait en Europe quand j'étais jeune. J'aime être là. J'aime entendre la langue. J'aime sentir les sentiments.
On arrive au terme de notre voyage en votre compagnie, James Conlon. Alors, je pensais à cette morale dans Le Nain de Zemlinsky qui est qu'il vaut mieux ne pas se connaître soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est dur. Et ça, c'est Oscar Wilde. Ça, c'est Oscar Wilde. Je suis sans mots.
C'est avec la suite de Lady Macbeth de Mzensk de Shostakovich par l'orchestre du Gürzenich de Cologne sous la direction de James Conlon que se referment ces grands entretiens avec James Conlon. Réalisation de cette série, Christine Amado, prise de son, Yann Fressy, mixage, Romain Lenoir, attaché de production, Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.